RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Pierre Dorian.
Basket time, votre rendez-vous basket sur RMC tous les mardis, à télécharger sur rmc.fr. On est en pleine finale NBA, on a sorti la Dream Team. Arnaud Valadon, Frédéric Weiss et Stephen Brun. Bonjour messieurs.
Salut Pierrot.
Salut Pierrot.
Je ne vous pose pas la traditionnelle question, j'ai la réponse. Personne ne se lève la nuit parce que ces finales sont trop déséquilibrées pour l'instant. Steve, tu te lèves pas la nuit.
Cette phrase, je ne suis pas d'accord avec cette phrase.
Tu te lèves pas la nuit.
Je me lève pas la nuit, mais ça n'a rien à voir avec le déséquilibre.
Arnaud Valadon, tu te lèves pas la nuit. Vu non, comment tu as l'air reposé, tu ne te lèves pas la
je
nuit.
Je regarde le matin sans connaître le score et je profite avec un petit café.
Fred, tu détestes les deux équipes, donc tu ne te lèves pas la nuit.
Non, les Mavs, j'ai rien contre eux déjà. Et en plus, je me suis levé sur le premier match.
Ah, bravo. Bah, t'aurais mieux fait te lever sur le deuxième qui était un peu plus intéressant.
J'ai recouché au bout de 12 minutes.
Non, je suis allé prendre mon train.
Donc il y a 2-0, le miracle est-il encore possible pour Dallas? Parce que pour l'instant c'est une finale à sens unique. Qui est le patron des Celtics? Est-ce que c'est réellement Jason Tatum? Rendez-vous d'ici un quart d'heure. Et puis vous allez me rafraîchir la mémoire, qui sont les autres Jrue Holiday? Jrue Holiday, c'est le gars qui fait gagner, mais qui n'est pas le joueur majeur de l'équipe. Joueur très important bien sûr. Mais qui n'est pas le franchise player.
Ouais,
il y en a d'autres dans l'histoire.
C'est qui le joueur majeur de Boston?
On l'aura déterminé juste avant. Ah, donc okay. C'est bon, Fred. Je pense pas que vous allez me dire Jrue Holiday, si. Oh, on verra.
On verra.
On ne sait pas. On n'est jamais à l'abri avec Frédéric Weiss, Stephen Brun, Arnaud Valadon. Le quiz pour terminer, c'est un quiz d'actu sur les finales NBA. Hein. En ce moment, c'est facile les quiz. Bon, la semaine dernière, la dernière question était abominable, mais...
Oui.
Mais c'est relativement facile. On est parti pour un podcast spécial Final NBA sur RMC.
It's the Dallas Mavericks and the Boston Celtics for the NBA Finals. Here's Irving, Washington drives, blocked by White! Oh, what a block from Derek White! Brown, corner three, got it! 9 3-pointers for the Celtics. The lead is 22. Doncic gets inside. And a much-needed bucket. Doncic bumped by Porzingis. Steps back. 3-pointer. Puts it in. Tatum. A contested three. It's good. Porzingis gets away. Inside and throws it down. Irving on the bounce. Gets in. Falling away. Shot is good. A beautiful move from Kyrie Irving. Jaylen Brown goes right past Doncic and the slam. A great team effort. And the Celtics get the victory 105-98.
Alors on y va, Boston a remporté les deux premiers matchs à domicile avec de la marge, donc il y a 2-0 les prochains rendez-vous, vous les connaissez, ce sera à Dallas dans la nuit de mercredi à jeudi, puis dans la nuit de vendredi à samedi. L'exploit est-il encore possible pour Dallas? Il y a une semaine on en faisait presque des favoris, et puis c'est une sorte de retour à la réalité. Boston c'est très 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 solide, et à domicile Dallas n'a pas pu en fait mettre son jeu en place. Est-ce que vous y croyez encore pour les Mavs, Fred?
Ah, c'est difficile. C'est difficile d'y
croire. On va attendre de voir ce que donne le premier match à Dallas quand même. Ça
clairement,
peut être très différent de ce qu'on a vu.
Ça peut être très différent. On sait que c'est une équipe qui est en réaction. C'est une équipe qui est habituée à perdre le premier match des séries. Mais là, c'est chaud quand même. Parce que tu te rends compte qu'il y a une capacité défensive dans cette équipe de Boston qui est incroyable. Quand tu regardes les pourcentages, je me suis amusé à regarder les pourcentages sur les deux premiers matchs. Tu es à 13 sur 53 à 3 points du côté des Mavs. Mais le problème, c'est que tu es nul au lancer franc aussi. Tu es à 28 sur 43. Donc c'est-à-dire qu'à un moment,
ça
tu mets pas de panier.
Ça peut s'améliorer facilement quand même.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils t'ont tellement épuisé que tu te retrouves sur la ligne, que t'es fatigué, tu as raté. Donc ça veut dire qu'en gros, tu marques pas de points. T'as une équipe en face qui défend super bien, t'arrives pas à marquer des points, et défensivement, même si tu défends plutôt pas trop mal, parce qu'il y a quand même aussi des errances.
L'adresse n'est pas non plus au rendez-vous à Boston.
Exactement,
hein.
Mais sauf que quand ils veulent cadenasser, quand ils veulent être au-dessus, ils sont au-dessus. Et ça marque la différence.
Crois pas trop.
J'ai beaucoup de mal à y croire, et ça me fait de la peine, parce que j'aime beaucoup cette équipe de Dallas, mais quand tu vois les deux premiers matchs, en tous les cas, t'as du mal à imaginer que d'un seul coup, tout va être renversé.
Ils sont en dessous de leur niveau de ces playoffs quand même.
Oui, mais est-ce que c'est à cause de deux ou à cause de Boston? C'est la
surtout
vraie question.
Kyrie.
Ouais, alors Kyrie, je suis désolé, mais quand t'as Jrue Holiday sur le rab pendant tout le match, c'est vraiment pas évident quand même.
Je dis pas que c'est facile, mais t'as quand même un standing à défendre.
T'as un standing à défendre,
mais Irving, 0 sur 8 à 3 points sur les deux matchs, 6 sur 19 et 7 sur 18. Voilà ce qui nous fait Kyrie, et pourtant sa qualité principale, c'est
humain.
D'être un guard à shooter à plus de 50%.
Il est humain, c'est-à-dire qu'il s'est fait manger par le public, par le fait de revenir à Boston, et il s'est fait manger physiquement par Jrue Holiday. Donc forcément, ça
Dallas ne peut pas y arriver si Kyrie joue à ce niveau-là. Et puis, on s'interrogeait. La défense des Celtics peut-elle vraiment stopper ces Mavs? Voilà, deux fois moins de 100 points encaissés, on a la réponse. Et si les Mavs n'en prennent
Doncic met ses points, hein.
Ah, Luka, il fait ses finales. Franchement.
Alors après, attention, il met ses points, mais non, mais il y a l'aspect statistique. Et après, il y a ces erreurs dans le match qui coûtent cher quand même.
Il y a des balles perdues qui font très mal.
Il est épuisé, c'est vrai. Mais, à la fin, il est épuisé aussi.
Mais
ça,
pour
c'est
répondre
logique.
À la simple question que tu as posée, c'est-à-dire est-ce que les Celtics seront capables d'arrêter Dallas ? Ils ont limité Dallas sans limiter Doncic. C'est quand même un point aussi important.
C'est peut-être un choix tactique.
C'est peut-être ça qu'il fallait faire.
Parce qu'ils ne sont pas venus doubler une seule fois sur Luka Doncic. Ils ont décidé de défendre un contre un. Et c'est ce qui fait que Luka performe offensivement, mais que ses coéquipiers ne sont pas bons maintenant.
Là où on l'a vu en grosse difficulté, c'est que là où il régalait tout le monde, ses coéquipiers contre Minnesota, il ne trouve plus ses passes pour les alley-oops de ses intérieurs.
Parce que les mecs ne viennent pas aider et restent sur les shooters. Donc
il n'y a
plus ces décalages-là. C'est pour ça qu'il fait une passe sur le match 1. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a vraiment d'anormal sur ses débuts de finale NBA de voir Boston avoir gagné les deux matchs à domicile?
Ce qui est d'anormal, peut-être pas, mais d'étonnant, c'est la marge, en fait.
Moi, sur le match 2, j'ai pas vu de marge. Moi, si les Mavs sont un peu plus concentrés sur la ligne des lancers francs et s'il y a un peu moins de balles perdues, je pense qu'ils peuvent se bouffer les doigts de pas avoir pris le match 2 Dallas. Parce que
d'autant qu'il y a une petite faute quand même, je crois que c'est à moins 5.
Sur Derrick White, le contre.
Oui, il y a faute sur le compte depuis sur PG Washington, il y a faute. Il y a un bout de main.
Mais il peut changer beaucoup de choses hein, dans le scénario du Money Time. Hein.
Mais ce qui change beaucoup de choses pour moi, ça va être le match à Dallas. On a coutume de dire qu'une série démarre quand une équipe gagne à l'extérieur. Pour moi, pour l'instant, elle n'a pas démarré. Boston, on rappelle, c'est une équipe qui a perdu 4 matchs cette année en saison régulière chez elle. Alors peut-être parce qu'ils en ont perdu un contre les Cavs et un contre Miami, on se dit que peut-être que c'est pas normal que Dallas ait gagné à l'extérieur. Maintenant, moi je rejoins Arnaud sur cette équipe des Mavs. Kyrie Irving, c'est lui qui a la clé de la suite pour Dallas. Jrue Holiday est un bon défenseur, oui. Jalen Brown est un bon défenseur, oui, il n'y a pas de problème. Mais Kyrie Irving, ça fait 15 ans qu'il détruit tout le monde en fait. Donc des bons défenseurs, il en a déjà eu dans sa vie sur le paletot, Kyrie Irving. Il est en vrac, complet, sur le tir à 3 points. Et si Dallas veut gagner des matchs, il faut passer la barre des 100 points. Et qui est le deuxième larron capable d'alimenter la marque? C'est Kyrie Irving. La problématique pour les Mavs, c'est là. C'est Kyrie Irving pour moi, tout simplement.
C'est lui la clé de la série pour toi. Donc tu y crois encore, du coup?
Moi, j'y crois encore. Moi, je pense qu'à domicile, on le sait, c'est pas la même euphorie. C'est pas le même enthousiasme. C'est le repère des cercles. Ça va filocher. C'est des mecs
Dallas
qui vont prendre
feu. Meilleur.
Dallas va être meilleur.
Et
oui.
Kyrie sera moins sous la pression de jouer au TD Garden aussi. Parce que
oui,
TD Garden était contre.
Et puis, je trouve qu'il n'a pas eu la bonne approche à vouloir trash-talker le public et à vouloir répondre, à mettre les mains sur les oreilles. On reviendra pour un match 5. Mon grand, t'as été cata sur les deux matchs. Fais profil bas, concentre-toi sur jouer au basket, être efficient offensivement et tu reviendras à Boston si tu dois revenir à Boston. Mais je trouve qu'il a voulu, on va mettre un défi perso, mais il a voulu, je sais pas, en fait, il s'est fait...
Je pense que c'est plutôt un défi perso, je te rejoins sur
mais c'est lui, mais il est pas bon, il est en travers, Kyrie Irving, peu importe, il y a des bons défenseurs en face, Kyrie Irving doit être meilleur que ça.
Ce qui est intéressant, on parle du défi perso, là il y en a aussi un qui arrive, c'est Kristaps Porzingis, de retour à Dallas. Alors,
lui, son impact sur les deux premiers matchs est évident.
Sur le match 1, il a changé énormément de choses et on voit que c'est pas évident de s'adapter. On voit Boston a trouvé, même si dans l'équilibre des shoots, ils prennent toujours un tir sur deux à 3 points, mais je trouve que j'ai plus ressenti l'alternance en les voyant jouer sur ces deux premiers matchs, en ne pas surforçant le tir à 3 points. Et ben, la porte Porzingis, et lui aussi a une revanche à prendre face à Dallas. Et on a vu Boston avec ou sans lui, c'est pas la même équipe.
Après, il revient de blessure. Donc, c'est-à-dire que sur le match 1, il est très très bon parce qu'il revient. Il y a le.
Oh, mais le match 1, il le refera jamais.
Ben voilà,
il était sur un nuage.
Il est sur un nuage parce que c'est un match de retour.
C'est un mec, il a 20 points de moyenne en NBA.
Oui, mais c'est
un match.
Non,
mais il a zéro déchet offensivement, défensivement, il réussissait tout. Il y a pas un shoot.
Oui, c'est pas un match irréel pour Porzingis.
Sur la réussite,
20 points, 21 minutes, c'est quand même.
Oui, d'accord. On connaît sa capacité à mettre des points.
Évidemment, il est capable de mettre des points, mais c'est quasiment jamais arrivé qu'un mec mette autant de points.
3 mètres derrière la ligne, c'était
n'importe quoi. C'est qu'on s'en rappelle plus parce qu'il est souvent blessé mais il est capable de le faire.
Mais c'est la bascule aussi sur l'apport offensif du banc où les Mavs sont en grande souffrance, où Maxi Kleber est mauvais.
Même PG Washington n'a pas la même réussite que des tours précédents. Lui, quand même.
Mal,
il était à 3 points peut-être, mais bon, dans le scoring.
Oui, mais ça leur manque.
Mais quand tu regardes les chiffres de la finale de conf contre les Wolves et les chiffres contre Boston,
ça n'a plus rien à voir.
Il n'y a qu'un mec en fait qui passe sur ses standards. C'est Kyrie Irving en fait. Tous les autres, Daniel Gafford est très bon en deuxième mi-temps sur le match 2. Les mecs sont bons. Il y a 8 balles perdues de Luka Doncic, mais la vraie problématique de Luka aussi, elle n'est pas en attaque. Mais qui se fait agresser défensivement, gros. ils viennent le percuter, parce que Boston, c'est le pire pourcentage à 3 points des playoffs pour eux, et ils gagnent quand même. C'est ça qui peut être un crétin pour Dallas. Il s'est fait percuter, Lucas, à venir aider Jrue Holiday, ça part dans son dos sans arrêt, parce que Lucas, bon, a la tête en l'air. Défensivement, il est ciblé. Alors, est-ce qu'il a des... il était incertain avant le match 2
T'as vu comme il est rentré, c'était une momie, le mec. Il avait un truc sur le torse, un truc sur les genoux, un truc sur le dos, un truc... Oui, c'est normal. Au bout d'un moment, tu joues contre Boston, tu vas être percuté, tu vas être impacté, et à la fin, tu vas être fatigué en plus, parce que justement, il porte trop le ballon, parce que Kyrie n'a pas rendu encore ce qu'il doit rendre.
Exactement.
Et c'est vrai que dans le quatrième quart-temps, je crois qu'il perd 5 de ses 8 ballons perdus ont lieu dans le quatrième quart-temps. Pour Lucas Doncic, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que normalement, à ce moment-là, il donne le ballon à Kyrie, qui crée beaucoup plus.
Il y a peut-être plus de gaz.
Mais oui, donc il est cramé.
Il joue beaucoup de minutes.
Oui, mais je te dis, normalement, c'est Kyrie qui prend ses minutes sur la fin, qui fait la création. Il le fait beaucoup moins, et donc ça complique encore.
Il y a des pertes de balles où ils viennent un peu le presser rapidement en haut, il essaie presser un peu par.
Il est cramé.
Les 8 secondes, il envoie des passes et derrière tu prends des points. C'est pour ça que il fait 12 pertes de balles là sur les deux premiers matchs, mais c'est des pertes de balles qui font match. Parce que j'étais pas tellement d'accord quand t'as dit sur le match 2 que tu voyais pas, Stephen, une marge de Boston. Moi, je l'ai vu, ils sont à plus 10. Il y a le gros run parce qu'ils sont déconcentrés à la fin.
Ils reviennent à moins 5.
Il y a le contre qui fait la bascule sur la fin de match aussi.
Et je trouve justement,
16 sur 24 lancé franc qui fait très mal pour les matchs.
Sur les 40 premières minutes, Boston avait le contrôle.
Et Lucas, on rate pas mal, hein, justement, sur la fin de match aussi. Oui, encore une fois, un symbole de. Il est cramé.
Il loupe 4 lancés et il perd 8 ballons. Après, sur la première mi-temps, je vois pas. Moi, il n'y a pas une énorme différence entre Boston et Dallas.
Il y a évidemment beaucoup moins de différence que sur le match 1. Quand Porzingis est rentré, ils ont été complètement déstabilisés.
L'impulsion.
Ils n'ont jamais retrouvé de réponse à ça et que le match était plié rapidement. Voilà. Sur le match 2, je suis d'accord avec toi, Steve. Tu te dis à tout moment qu'ils peuvent revenir, mais malgré tout, le moment où ils peuvent le faire, ça ne se passe pas très bien.
Non, ça ne se passe pas
très
bien.
C'est ça qui est inquiétant.
Et surtout, ce qui est problématique pour Dallas, c'est que
c'est dans ces moments-là que tu fais basculer une série quand même.
Oui, mais t'as besoin.
Alors, même s'ils n'ont pas eu de chance, parce qu'il y a cette petite faute qui n'est pas sifflée, mais t'as pas l'impression quand même qu'ils ont pris leur destin en main à ce moment-là de la série.
Mais parce que sur la finale de conf, quand il y avait une bascule à faire, parce qu'ils ont souvent été menés, Dallas, quand il y avait une bascule à faire, c'était un run de Kyrie Irving qui mettait 8-10 points à lui tout seul sur des tirs à 3 points en transition.
Monsieur quatrième carton en plus.
Exactement. Et là, il n'y a plus, en fait. Il n'y a plus pour faire la bascule. Et surtout, le plan de jeu des Mavs, qui viennent doubler souvent sur Jason Tatum, on en parlera sur le talk d'après, ils se font taper dessus par des mecs qui n'est pas prévu au programme. Quand Jrue Holiday met 26 points, je ne suis pas sûr que Jae Kidd s'est dit on va se faire battre par Jrue Holiday qui est capable de mettre des points. Il en a mis 51 l'année dernière avec les Bucks sur un match. Mais ce n'est pas prévu au planning. En fait, tu ne sais pas, avec cette équipe de Boston, qui va te mettre 25 ou 30 pions. Elle est là, la problématique pour les matchs.
Ils sont tous capables de le faire.
Exactement.
Les 6-7 du premier joueur, 6, on va dire, sont capables de mettre ces 20 points. Donc
c'est très compliqué
de stopper un mec et surtout de faire une prise à deux. Surtout avec un Tatum qui là lève la tête et qui enfin passe les ballons quand il le faut. Qu'est-ce que tu veux faire?
Donc à la question posée, t'as répondu plutôt non, Fred, plutôt oui, Steve. L'exploit est encore possible, toi, Arnaud?
Plutôt oui, parce que Dallas prend les deux matchs à domicile. Par contre, s'ils en perdent un, je pense que c'est finito.
Donc pour l'instant, c'est Boston qui domine cette finale, mais qui est le patron de Boston?
C'est qui le patron?
How much pressure is on Tatum to win it all?
Jaylen Brown is a bad brother. He's something special.
C'est qui le patron?
Brown goes inside. Oh, what a slam from Jaylen Brown. Brown on the steal and slam.
Tatum contested. Three is good.
Tatum has Kyrie Irving and Brown cuts.
Beautiful pass from Jason Tatum.
Tatum on the strong finish.
Porzingis shooting, scoring. Blocked by Porzingis. He's doing it all.
Holiday, wide open three in the corner. Got it.
Jaylen Brown into the paint. Layup, he banks it in.
Tatum double.
Nice pass. Holiday layup is good.
Tatum drives past Irving, gets in. Scoop layup.
There's a gorgeous move from Tatum.
C'est qui le patron? Et moi.
Alors, qui est le patron à Boston dans cette franchise où le danger vient de partout, mais où le franchise player s'appelle Jason Tatum? Des chiffres en baisse au scoring, en tout cas, Arnaud.
C'est surtout l'adresse. Il est à 31% sur ses finales, mais il est quand même en moyenne sur les deux prochains matchs, proche d'un triple-double, 17 points, 10 rebonds, 8 passes. C'est vrai que son adresse, notamment à 3 points, 4 sur 14, il est légèrement méconnaissable, à l'image de ce match 2 où il était en très grande difficulté, mais il termine quand même avec 12 passes. Et c'est vrai qu'outre Atlantique, on nie pas les difficultés de Jason Tatum, mais on encense Jaylen Brown, le meilleur marqueur des Celtics, sur ses finales avec 43 points sur les deux matchs et surtout son impact défensif peut-être légèrement supérieur à celui de Jason Tatum.
Fred, non, plus tard Fred. Steve.
Parfait, oui.
Qui est le patron de cette franchise?
Brad Stevens.
Brad Stevens, bravo à lui.
Non. Je trouve qu'on est... Quelle est la quête ultime de cette équipe des Celtics et Jason Tatum? C'est d'être champion NBA. Elle est là, la quête ultime. Je pense qu'il y a quelques années en avant, peut-être qu'il voulait vraiment être le meilleur joueur de cette équipe-là, qu'il voulait être MVP des finales, qu'il voulait être MVP de la saison régulière. Je crois qu'aujourd'hui, il a switché. Moi, je veux une bague à tout prix. Donc, moi, j'ai envie de louer...
Il pensait qu'il en aurait 5 avant 28 ans, quand même.
Oui, peut-être. mais moi, j'ai envie de louer l'altruisme, parce qu'on a toujours su que c'était quand même un joueur de qualité supérieure. Son altruisme, si Jrue Holiday met 26, c'est aussi en partie parce que Jason Tatum a les belles lectures de jeu.
D'ailleurs, il l'a remercié.
Oui, oui. Et il est exceptionnel sur le playmaking. Oui, passe décisive en première mi-temps. Oui, il n'est pas à droit. Oui, il a des pourcentages catastrophiques à 3 points. Mais aujourd'hui, son équipe est à 2-0. Qu'est-ce qu'on veut voir, en fait? On veut voir Jason Tatum à 35-40 pions en forçant comme un porciné et mettre son équipe en danger? Ou se dire, finalement, Jalen Brown est énorme, alors Ford est très bon, Porzingis est très bon, Derek White est très bon, Jrue Holiday est très bon. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me mettre en avant et de montrer que c'est mon équipe? Non, je ne suis pas sûr. Ce qu'on retiendra, c'est si Jason Tatum a une bague en disant « Bravo mon grand, mais t'es alors, peut-être un des meilleurs joueurs de la Ligue et t'as une bague. »
Ça, c'est pour l'analyse à proprement parler de Jason Tatum, mais qui aujourd'hui est le patron de cette franchise des Celtics? Sur les finales, hein, évidemment. Sur ce que tu vois.
Bah, sur les deux premiers matchs.
C'est pas Jalen Brown,
si,
par exemple.
Si, sur les deux premiers matchs. Parce que Jalen Brown a lancé les finales merveilleusement bien pour les Celtics sur ce match 1 où il est... pour moi, exceptionnel des deux côtés du terrain. Ses défenses, ses contres, ce dunk monumental qu'il met dans le trafic pour faire péter le TD Garden. Donc oui, Jalen Brown a lancé cette finale. Maintenant, attention quand même à ne pas discréditer tout ce que fait Jason Tatum sur les lectures de jeu. Si Jrue Holiday est bon, si les autres sont bons, c'est parce qu'il y a deux joueurs sur Jason Tatum en permanence qui monopolisent la défense des Mavs aussi. Si ce n'était pas un grand joueur, les Mavs ne calculeraient pas Jason Tatum.
Fred, est-il, oui ou non, le franchise player de Boston,
non.
Jason Tatum?
Non.
C'est qui?
Je n'ai jamais pensé, moi, que c'était lui.
Je sais bien que tu n'as jamais pensé.
Moi, je pense que c'est Jalen Brown. Jalen Brown, et c'est le collectif créé par Mazzulla, parce que quand tu as un Jrue Holiday, quand tu as un White, quand tu as des mecs comme ça sur lesquels tu peux t'appuyer, alors je ne suis pas en train de dire que Tatum est un mauvais joueur, hein. Bien au contraire, c'est
non,
un joueur
tu
fantastique.
Tu le penses, mais tu ne le dis pas, non, ça, non. D'accord, il n'y a pas de souci.
Non, non, en fait, je n'ai jamais pensé que c'était un mauvais joueur. C'est juste que j'ai toujours trouvé surcoté, parce que pour moi, il n'a pas cette capacité, il n'a pas les épaules pour être franchise player. Mais après, c'est une opinion personnelle. Pour moi, si je devais choisir un des deux, je choisirais Jalen Brown, mais les deux sont d'un niveau incroyable. Après, je rejoins quasiment sur tout Stephen, sauf sur un truc. Sauf qu'à un moment, il faut quand même marquer des paniers. À un moment, il ne fait pas exprès de rater pour dire « je vais faire des passes ». Non,
Il a bazardé quelques lay-ups de merde.
Il a quand même bazardé des lay-ups et je pense qu'on attend quand même de lui qu'il marque ce genre de points.
Ouais, mais par contre, à l'inverse, là où il est très fort, moi je trouve, sur ses finales, c'est qu'il fait autre chose. C'est qu'en fait,
il sort pas de son match.
C'est qu'en fait, il a quand même régalé à la passe, ce qui est pas sa première arme habituellement. Habituellement, il shoot, il rentre, beaucoup de points, etc.
Mais encore une fois.
Et là, il s'est adapté et offensivement comme défensivement, moi, je l'ai vu très très fort.
Il impacte le
très,
jeu.
Très fort.
Autre que par le scoring.
D'accord.
C'est-à-dire
que les interceptions sur Doncic, les passes pour ses coéquipiers dans des meilleures positions que les siennes, bah bravo. Qu'est-ce que tu veux dire?
Ok. Moi, je suis d'accord avec ça. Il a réussi à s'adapter. Il n'arrive pas à marquer un panier, donc il préfère faire des passes. Ok, c'est cool. Sauf que maintenant, je vais vous poser une question. Un franchise player qui a 17 points à 31% de réussite,
ouais.
Est-ce que vous pensez qu'il y a le franchise player
et un rebond
on est en 2024, je ne suis pas en train de vous parler des années 90 où 17 points c'était bien. C'est un franchise player qui a 17 points, est-ce qu'on considère que c'est un franchise player? C'est ma vraie question.
Arnaud va répondre.
Alors oui, il apporte d'autres choses, je suis d'accord avec vous. Et au rebond, il a toujours été performant. Concrètement, c'est vrai que là il se met en avant au niveau de la passe parce qu'effectivement il est plus doublé, etc. Mais un franchise player à 17 points, à 31% de réussite en finale NBA, est-ce que vous avez déjà vu ça? C'est tout, c'est ma seule question.
Après, c'est une équipe particulière, les Celtics.
Je suis d'accord, mais est-ce que tu peux considérer qu'avec ce pourcentage aussi faible, avec seulement, parce qu'encore une fois on est dans la NBA de 2024, 17 points marqués, tu peux considérer que c'est un franchise player comme d'habitude on a vu en NBA?
Il reste deux matchs minimum.
Mais je
on n'est pas à l'abri d'un 40 qui tombe.
Mais ça, c'est sans oui. problème, parce qu'à un moment, il va mettre des points. Oui. C'est quand même un joueur fantastique et il va mettre les points.
Non, mais surtout,
à l'instant, ma question,
c'est paradoxe,
est-ce que vous avez déjà
Fred,
vu
tu es à 17 points, 10 rebonds, 8,5 passes, avec un pourcentage d'adresse catastrophique. Ton équipe est à 2-0 et tu as été impactant. Bien sûr, ce n'est pas normal, les 31%. Tout le monde le dit. Mais même avec cette stat quelque part horrible pour des superstars, ce qui fait je trouve que
mais
c'est...
Mais en fait, non, on n'a pas la même discussion. Moi, je ne suis pas en train de te remettre en cause le fait que ça soit un bon joueur, un excellent joueur.
Oui, mais est-ce
joueur...
que tu
Pour moi, c'est le meilleur joueur de Celtics, mais si que... tu mets un MVP des finales, tu mettras Jaylen Brown.
Mais peut... sans aucun problème.
On peut aussi poser la question.
Et peut-être Jrue Holiday même. Parce que vu ce qu'il fait d'un côté, et s'il continue à faire 2-3 cartons offensifs,
je vous rappelle qu'Iguodala était MVP des finales, donc, alors que Steph Curry était dans son équipe.
Exactement.
Est-ce qu'on peut poser la question différemment? C'est-à-dire, est-ce qu'un franchise player doit être impactant au scoring? Obligatoirement. On peut poser la question comme ça?
Un petit peu quand même, Pierre, dans la NBA actuelle et sur les capacités qu'a montré Jason Tatum tout au long de sa carrière à mettre des points. Oui, tu l'attends aussi sur le scoring, mais... Fred a un peu raison de dire que le statut qu'il a, Team USA, énorme contrat, prétendant chaque saison au titre de MVP de la saison, t'as le droit d'attendre à un moment donné énorme perf et qui montre, ok, c'est Jason aussi... Tatum, le patron des Celtics. Donc,
mais il y a quand même quelque chose.
Fini, donc je l'attends encore.
Il y a quand même quelque chose qui relativise ça, c'est que on n'a pas encore eu de scénario de match qui réclame ça de la part de Jason Tatum. C'est
parce que sur le match 1, ils sont à plus 25 rapidement.
Exactement.
Est-ce qu'on a envie de...
Donc on n'a pas encore eu besoin de 40 points de Jason Tatum et on n'a pas encore eu besoin de tir clutch dans le money time.
Mais je suis d'accord avec toi et c'est pour ça que d'ailleurs il rate les layups volontairement pour essayer de permettre aux maps de revenir, mais vraiment. En fait, il est généreux, c'est un mec généreux. Je me rends pas compte de ça.
Je te donne un exemple. Alors, certes, ça a été rare, mais c'est arrivé de voir un Kobe Bryant ou un Michael Jordan rater son match au scoring, mais mettre le shoot de la gang. C'est déjà arrivé. On leur a pas reproché d'être à moins de 40% ce jour-là. Tu vois
ce qu'il sauve.
Tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais c'est pas lui qui a mis les shoots de la gueule.
Parce qu'il n'en a pas eu besoin encore.
Ce qui sauve Jason
Tatum. Mais non, mais
en fait, il se rattrape à toutes les branches.
Ce qui sauve Jason Tatum, c'est que les Celtics sont à 2-0.
Et oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Imagine, t'es un.
Parce que un partout, avec ces chiffres-là, je pense que le podcast. Les talks sont différents, je pense, et que le conduit est différent. Donc pour l'instant. On les gratine un petit peu parce que son équipe est à 2-0, parce qu'il a un supporting cast qui est magnifique, mine de rien. Bah, cette équipe des Celtics, elle est exceptionnelle et qu'au final, peut-être que s'il y a 4-0 ou 4-1 et que Tatum est à moins de 20 points, on dira peut-être que bah, finalement, c'est bien d'avoir un 5 majeur contre deux mecs en face, 5 contre 2 en général, même à la bagarre. Enfin, ça dépend si les mecs à 2 sont équipés, un peu plus équipés que les 5. En général, tu gagnes. Mais oui, il a un statut qui réclame un peu plus.
Un peu de qualité.
Juste pour finir, une petite question qui sera dans la réponse sera obsolète dès jeudi matin.
Obsolète, c'est une chanson de MC Solar, c'est une belle chanson.
Voilà.
La phrase qui suivra.
Pour l'instant, le MVP des finales, pour toi, c'est Jaylen Brown, Fred.
Oui.
Pour toi, Arnaud.
Oui.
C'est Jaylen Brown.
Oui.
Et pour toi,
Fred. Pour l'instant, c'est MVP des finales de conf et MVP des finales NBA.
C'est pas Jrue et c'est pas Jason Tatum.
Non.
Et c'est pas Luka Doncic.
Reste encore quelques matchs. Pas Luka.
Luka, s'il gagne pas, il peut pas être MVP des finales.
Soit, mais en termes d'impact sur les matchs.
J'ai l'impression que Fred préfère être dans la position de Luka Doncic, mener 0-2, mais avec des bonnes stats.
Non, alors quand tu joues avec les Avengers, c'est un peu plus facile aussi de gagner des matchs.
Donc tu vas faire le débat, est-ce que les Celtics pourraient être champions sans Jason Tatum?
Mais lui en est un Avenger.
Moi, je pense que oui, si tu me poses cette question, après, oui, les Boston Celtics pourraient être champions sans
Tatum. C'est là où je pense que t'as...
Parce que défensivement, ça change tout pour Dallas.
Alors, je te dis un autre joueur, je te dis pas un joueur extrêmement mauvais, avec Tobias Harris sur champion NBA.
Genre Mario Chalmers.
Par contre, cet été, il y a Fred utilise le mot Avengers, il y a une équipe d'Avengers qui va venir en France. Donc, si LeBron James est à 6,5 points de moyenne à 24% avec Team USA, est-ce qu'on pourra le détruire ou pas?
Je pense qu'il pourra même s'adresser directement à LeBron à Lille hein, ou à
moi,
Paris.
Moi j'irai le voir. Tirer
les oreilles surtout.
Hi LeBron.
C'est un Basket Time spécial finale NBA dans la partie historique. Nous allons parler indirectement de Jrue Holiday.
Holiday, nice fake, gets across the lane, flips it up and in. Holiday, wide open three in the corner, got it. Back to Horace, top of the circle, jump shot on the way and Horace Grant.
Dennis Rodman, only man in the history of the NBA to win back-to-back championships with two different teams.
Rodman from Thomas.
Rodman with the rebound. Feeding Pippen. Steve Kerr getting the playing time here in the second quarter. Nice feed from Kerr.
San Antonio Spurs have won their first NBA championship.
It's here as J.R. Smith, not afraid to get one up. He's got a three-pointer in the Western Conference Finals.
J.R. Smith, we just saw man four.
Alors, qui sont les autres Jrue Holiday de l'histoire? Ces joueurs très importants, mais qui ne sont pas justement le franchise player, qui font gagner leurs équipes. C'est pas encore fait pour Jrue, mais qui a été sacré avec Milwaukee, qui le sera peut-être avec Boston, et qui est un apport considérable et incontestable dans cette franchise des Celtics. On est tous d'accord là-dessus.
On est tous d'accord.
Bon. Alors, Arnaud Valadon, qui est ton Jrue Holiday historique?
Big Shot Rob. Robert Horry, combien de bagues NBA?
5.
7.
7. Ah oui, j'en ai oublié.
Deux fois avec les Rockets de Houston et Hakeem. Le three-peat des Lakers avec Kobe et Shaq. Et 2005-2007 avec les Spurs. C'est peut-être un des joueurs les plus paradoxaux de l'histoire, car pour l'ailier de 2m08, sa moyenne de points en carrière est de 7 avec 5 rebonds et 2 passes. Sa meilleure saison est en 96 avec 12 points par match. Mais son surnom de Big Shot Rob est loin d'être galvaudé. 95, finale de conférence, Houston face à San Antonio et David Robinson tire en tête de raquette à 6 secondes de la fin pour la victoire. Finale 95 contre Orlando, match 3, les Rockets mènent déjà 2-0, on est à 10 secondes de la fin, Houston est à moins 1. Robert Horry à 3 points pour donner la victoire et bascule à 3-0. Il y aura un sweep ensuite de Houston. 2001, Bébé Horry est aux Lakers. Finale face aux Sixers d'Allen Iverson. Dans le corner, passe de Kobe dans le match 3 où la série est à égalité. Premier match à Philly et hop, le 3 points de la victoire une nouvelle fois.
Kobe n'a pas pris ses responsabilités, Fred. Comme, un peu comme Jason Tatum.
Il a fini à 14 points. Quoi.
C'est franchise payeur.
Après, je te rappelle que Jordan a envoyé deux galettes à John Paxson et Steve Kerr pour être champion NBA quand même.
Bah justement.
Il ne faut pas l'oublier ça au moment de faire le bilan de Jason
ouais,
Tatum.
Et je te dis, il était à 17 points de moyenne en plus, Jordan, sur la finale.
Une passe de Kobe pour Robert Horry. On est en 2002. Les Lakers sont face à Portland au premier tour des playoffs. Ils mènent 2-0 et ne sont qu'à une victoire de la qualification car c'était en 5. Portland mène plus 2 à 10 secondes de la fin et bis repetita. Le drive de Kobe et la passe en écart pour Robert Horry qui marque à 3 points. On continue ?
On continue, bien sûr.
Finale de conférence pour l'une des plus belles séries de l'histoire entre les Lakers et les Kings. Sacramento mène 2-1, on est au Staples Center. Les Kings sont devant 99-97 et peut mener 3-1. Kobe près du cercle, Shaq et le rebond offensif, ça ne marque pas. Staples Center qui sature,
après,
vous voyez.
Après, là, c'est vraiment un coup de chat énorme parce que c'est Vlade Divac qui jette le rebond offensif pensant qu'il n'y a plus de temps et ça retombe dans les mains de Robert Horry qui jette un caillou.
Et ça marque, il passe face aux Kings.
Il l'a mis quand même.
Ah oui, il l'a mis.
Donc ça fait partie de sa légende.
Eh oui.
C'est tout ? Eh bien non ! San Antonio 2005, finale face aux Pistons, match 5, il y a 2-2. Robert Horry score 13 points dans le dernier quart-temps au Palace, prolongation. Et là, et c'est peut-être ce qui est le plus significatif, c'est tous ses tirs pris alors que son équipe est menée. Il n'y a pas égalité. Détroit est devant, plus 2. Dernière possession pour les Spurs. La passe magnifique de Manu Ginobili pour Robert Horry à 45. Big Shot Rob, je crois que c'est le surnom le plus juste tant ses tirs clutch sont monumentaux et ses 7 bagues de champion quelque part, il y a bien contribué.
Bravo, 7 bagues de champion, c'est mérité pour Robert Horry. Alors, Stephen.
Oui.
Écoute, qui est ton Jrue Holiday ?
Moi, c'est Danny Green, Danny Vert, un garçon qui est champion NCAA avec North Carolina en 2009, qui est drafté très loin au deuxième tour en 46e par Cleveland, qui est viré par Cleveland après sa saison rookie, récupéré, là encore, ça sent le bon filon, par les Spurs en 2011. L'année du lockout, il va traverser l'Atlantique, il va venir jouer à Ljubljana, notre ami Danny Green pendant la grève.
Charmante petite ville
oui,
d'Europe
centrale. 9 matchs de championnat, 7 matchs d'Euroleague, fin du lockout, retour aux Spurs pour une aventure exceptionnelle. C'est lui qui sera starter durant cette épopée des Spurs et pendant que Ginobili deviendra un des meilleurs 6e hommes de l'histoire, c'est Danny Green qui sera dans le 5 de départ en 2013, finale NBA. Il fait une finale NBA exceptionnelle, 27 tirs à 3 points inscrits contre Miami sur la série sur des finales NBA. C'est un nouveau record que depuis Steph Curry a battu. 5 sur 5 au match 1, 7 sur 9 au match 3, 6 tirs à 3 points au match 5. Malheureusement, pas de titre pour les Spurs par la faute de Ray Allen et ce tir iconique à 0 degré sur Tony Parker. 2014, la première bague de Danny Green, toujours dans ce rôle de shooter défenseur qu'il maîtrise à perfection dans un Spurs basketball de rêve. En devenant champion NBA, Danny Green deviendra le troisième joueur de North Carolina à être à la fois champion NCAA et champion NBA, qui sont les deux autres, Fred. Michael Jordan.
Michael Jordan, oui, mais... Et James Borsi.
Voilà, James Borsi, ton joueur, voilà. En 2015, il deviendra le recordman de tirs à 3 points sur une saison pour les Spurs, avec 191 tirs à 3 points inscrits en saison régulière. Cette saison magnifique avec les Spurs.
Le problème, c'est que Fred, il était en train de rager sur Tatum, là. Il n'était pas avec toi.
Ah, il n'était pas avec toi. Danny Green, c'est cette saison magnifique avec les Spurs où, en 2016, il va même intégrer le deuxième meilleur 5 défensif de la NBA. En 2018, il fait partie du trade qui envoie Kawhi Leonard à Toronto contre DeMar DeRozan. Il s'imposera encore une fois dans le 5 de départ avec Kyle Lowry, Marc Gasol, Serge Ibaka et Kawhi Leonard. Contribution offensive en baisse un peu en playoff, mais il prendra sa deuxième bague avec des prestations défensives énormes pour taper les Warriors 4-2. Une saison au Canada et direction les Lakers. Premier match directement starter. 28 points, 7 sur 9 à 3 points pour son premier match. Il passera devant Jabbar pour la meilleure perf offensive d'un joueur qui débute avec le maillot des Lakers. Tu te rends compte, Jabbar a fait 27. Lui, il fait 28 aux côtés de LeBron et Anthony Davis. Troisième bagouze dans la bulle. Hein, la saison marquée avec la bulle sanitaire en Floride. Une victoire 4-2 contre Miami. Danny Green et LeBron James deviennent par la même occasion les 3e et 4e joueurs à devenir champions avec 3 équipes différentes. Qui sont les deux autres ?
Shaquille O'Neal ? Non.
Robert Horry.
Bébé Horry.
Bien sûr,
et
on vient de le dire.
John Sally.
Oh, John Sally, j'avais
trois,
pas.
Qui est John champion Sally. NBA avec 3 équipes à l'époque des Bad Boys de Pistons.
Harry.
Quand Harry rencontre Sally. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Bravo. Donc ensuite, c'est 2 saisons avec les Sixers, dont la première très solide, encore une fois starter. Ils seront les ligaments croisés en play-off lors d'un second tour contre Miami. Il était encore dans le roster des Sixers cette saison où il a joué que 2 matchs. La famille Green, qu'on connaît très bien dans le basket, il a 2 cousins, Gerald Green, le serial dunker de l'époque, oui, qui jouait à Phoenix et à Boston aussi. Garland Green, qui a joué à Fos et qui était Antibes cette saison en Pro B. Son autre cousin, c'est Willie Green, l'actuel coach des Pelicans. Voilà, aujourd'hui, Danny Green, c'est dans le top 10 en play-off au nombre de 3 points inscrits avec 315, une liste avec une bonne compagnie puisqu'il y a Curry, Thompson, LeBron James, Ray Allen, Manu Ginobili, Kevin Durant et Reggie Miller.
Donc Danny Green, il est accepté dans le club des Jrue Holiday. Steve, à toi. Steve, c'est Fred,
moi,
à toi.
Moi, c'est Fred.
Fred, à toi.
Alors, Dennis Rodman, moi.
Oui,
j'ai choisi Dennis Rodman parce que clairement, ce mec drafté en 86 en 27e position par les Pistons, c'était au deuxième tour à l'époque. Donc, juste après Sabonis qui était drafté 24e. Il est 5 fois champion NBA. 2 fois NBA Defensive Player of the Year, 90-91, meilleur rebondeur de la Ligue de 92 à 98, j'en passe et des meilleurs. Alors, juste pour expliquer un petit peu la trajectoire de ce garçon, quand il arrive aux Pistons, bah, c'est un joueur normal, lambda, qui doit marquer des points, qui doit essayer de faire plein de choses sur le terrain, et finalement il se dit « je vais faire une Tatum, j'ai pas besoin de marquer des points, il y en a plein qui marquent des points, donc j'ai proposé autre chose, je vais prendre des rebonds, je vais défendre, et c'est exactement ce qu'il va faire, et il va devenir le meilleur dans ça, il va devenir clairement le meilleur. Alors il va gagner 2 titres en 90-91 comme j'ai dit tout à l'heure, mais en 92, il va avoir une moyenne de rebonds à 18,7 rebonds par match. Un monstre, une machine, un joueur de 2m1 capable de prendre des rebonds sur la tête de n'importe qui. Donc il va faire ses années à Détroit. Il va être transféré en 93 à San Antonio pour essayer d'épauler un David Robinson qui se fera défoncer par Hakeem Olajuwon en finale de conf, mais on accusera Rodman, bien sûr, parce que ses frasques auront fait perdre cette équipe de San Antonio, parce que c'est plus facile.
Ce qui était peut-être pas faux.
C'est plus facile de taper sur Dennis Rodman. Et finalement, pas grand monde le veut. Il est transféré aux Bulls, même si Scottie Pippen dit non, moi, Dennis Rodman, c'est bon, non, merci. Et finalement, Michael Jordan va dire que c'est mieux qu'il le prenne quand même. Donc, ils vont gagner le titre en 96. Et en 96, ce sera la première fois que 3 joueurs de la même équipe seront dans la NBA Defensive First Team. Okay. C'est la première fois que ça arrive. Le bilan sera de 72 victoires, 10 défaites, donc une saison merveilleuse. Et après, ils vont faire le three-peat 97-98. Un joueur incroyable qui a apporté énormément parce qu'il s'était rendu compte tout simplement qu'au niveau des points, il ne marquerait jamais la différence. Par contre, il s'est concentré sur le rebond en travaillant énormément sur ça.
Son agressivité,
sa défense. Bah, c'est lui qui défendait déjà sur Michael Jordan, hein, à l'époque quand les Pistons battaient les Bulls. Donc voilà, un joueur incroyable qui après partira de cette équipe. Il va jouer à Dallas pour finir, mais avant aux Lakers. Il va s'embrouiller avec son coach aux Lakers, il va jouer que très peu de matchs. Il va aller à Dallas pour finir un petit peu et boucler la boucle parce qu'il vient de Dallas au départ. Mais Mark Cuban et lui, ils vont avoir un accrochage et il va finir sa carrière comme ça.
Alors juste un dernier truc.
Il y a eu 2 bagues supplémentaires aussi, une avec Madonna et une avec Carmen Electra.
Non, mais ce qui est dingue, parce qu'il parle à un moment de les réticences de certains joueurs des Bulls à cause des confrontations avec Détroit à voir Dennis Rodman débarquer. Et au moment où il y a son discours au Hall of Fame, Dennis Rodman, il raconte cette anecdote. Donc il y a Phil Jackson qui est juste à côté au Hall of Fame et il raconte un moment que Phil Jackson le reçoit et lui dit à un moment: est-ce que tu peux aller dans les cuisines et dire à Scottie Pippen que tu es désolé pour tout ce qui s'est passé lancer. Et je voulais juste, en t'écoutant, il y a quelque chose qui m'est revenu. Un de mes meilleurs passages de The Last Dance, c'est quand Dennis Rodman t'explique le rebond et comment il calcule en fonction de du tir où il est pris, la trajectoire, si il va rebondir sur le cercle. C'est un truc scientifique monumental.
C'est un mec qui fait des vidéos. C'est un mec qui faisait des vidéos sur le rebond quand même. Et juste pour la petite blague, vous vous rappelez Will Perdue,
oui,
qui jouait aux Bulls, oui. Et ben ça a été, il a été transféré contre Will Perdue pour aller aux Bulls, et tout le monde a dit que c'était un transfert complètement inégal, mais bon, comme personne ne le voulait, ça s'est passé comme ça.
Il a pris un pain, Perdue.
Il y a juste une question qu'on se pose évidemment, c'est qu'on parle quand même de grands joueurs, hein, Roberto Ri, Jrue Holiday, Dennis Rodman, c'est pourquoi les franchises s'en séparent. Comment Milwaukee a pu faire ce move? C'est quoi l'histoire?
Il y a Damien Lillard.
C'est Damien Lillard. C'est un
pour faire venir Lillard.
C'est un trade à trois.
C'est terrible en fait. Ce sont des joueurs qui sont un peu sous-estimés. Ils sont pas tellement respectés pour leur talent, quoi.
Je sais pas si Jrue Holiday n'est pas respecté.
Non, mais je pense que
Yanis a été malheureux aussi de voir Jrue Holiday partir. Mais après, c'est des décisions un peu plus haut. Il y avait l'échec au premier tour des Bucks.
Ça t'oblige quasiment à bouger des choses.
Départ de Mike Budenholzer. Donc tu t'es dit, il faut peut-être bouger. C'est les décisions sont compliquées à prendre, hein, Piron.
Mais je sais que tu vas pas me poser la question, mais si tu me poses la question, est-ce que tu préfères Damien Lillard ou Jrue Holiday? Tu choisis un des deux joueurs. Je prends Jrue Holiday, mais 50 millions de fois. Voilà.
Après, attention, ça dépend de quel Damien Lillard tu parles aussi. Peut-être qu'aujourd'hui,
celui qui est
il est
en train de jouer.
Fin de parcours, oui, mais bon, il a été...
Bah, c'est maintenant qu'il y a eu lieu le trade, donc oui. La question ne se pose même pas.
Bah, oui, mais je pense que là, tout le monde répond comme toi, aujourd'hui. Mais si tu fais le move en prenant en compte qu'ils sont tous les deux à leur prime, est-ce que la réponse est si évidente?
Je prends Jrue Holiday.
Vous?
Je sais pas, parce que... Je sais pas, en fait, parce que...
Ça dépend comment tu construis ton équipe.
Est-ce qu'il fallait pas ramener... Parce que Chris Middleton, le problème, c'est que quand il y avait Jrue Holiday, Chris Middleton était exceptionnel. Et le problème, c'est que Middleton est souvent blessé et plonge un peu. Et donc, je pense qu'il fallait une deuxième solution offensive pour épauler Yanis Antetokounmpo.
Ouais, sauf que t'as perdu énormément défensivement. Et en plus, il y a eu du mal à se trouver avec le Grec.
Allez, on finit avec le quiz. Et alors là, je suis très content de ma trouvaille. Tournerai en rond, et là, on va pas tourner en rond. Est-ce que vous êtes prêts?
Coco Kukoc,
absolument. Alors là, vous mobilisez vos neurones.
Non, faites pas les paysans, t'es un mec de début de Chaumont, toi.
Patrick Duffy contre les vampires.
Et voilà, exactement. T'es pas un esthète du visage, qu'est-ce que c'est ton problème?
Un esthète du visage.
Je vous la refais. Mon premier est l'esthéticienne des bronzés.
C'est Christiane, l'esthéticienne, c'est Christian Wood.
Il était content, Stephen, de trouver Christiane, l'esthéticienne des bronzés. Tiens, je vais vous dire à quoi vous avez échappé aujourd'hui, parce qu'en entendant Coucou Kukoc, ça m'a fait penser à ça. Je voulais vous faire, pour la question multipoint, les joueurs originaires des pays de l'ex-Yougoslavie champion NBA.
Ouais,
c'était trop de taf, j'ai renoncé, je vous la ferai une autre fois.
T'as eu la flemme?
Ouais, j'ai eu la flemme à beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. À vérifier, en fait, tu peux trouver rapidement les évidents, mais vérifier qu'il n'y a pas un joueur secondaire, qui n'a pas eu une bague.
Un mec qui est mort.
Ou un mec qui est mort.
Ouais. Ou un mec qui est
dans
pas
un
mort.
Un accident de voiture, ou un mec qui n'est pas encore mort. Bon, bref, ce sera une autre fois quand on aura plus de temps. Nous allons faire une des questions d'actualité sur les finales NBA. Vous êtes prêts?
Oui.
Une petite déclaration pour démarrer. Qui a déclaré: pourquoi laisserais-je mon ego ou mon besoin de marquer
Tatum,
tous les points nous faire obstacle? C'est Jason Tatum.
Ouais, j'ai vu ça.
Alors,
tu ne devrais pas accepter ce point pour tout ce que tu as dit sur lui. Hein.
Exactement, pourquoi
exactement.
C'est lui qui l'a dit, c'est pas de ma faute.
Tu préfères Channing Tatum ou Jason Tatum?
Non mais Fred, l'explication elle est très claire. Pourquoi laisserais-je mon ego ou mon besoin de marquer tous les points nous faire obstacle?
C'est Mbappé qui a dit ça.
Donc,
j'aurais bien aimé.
Et je me répète, c'est-à-dire que le mec rate volontairement alors.
Exactement.
C'est ça.
Exactement.
Il est vraiment généreux.
Bravo, t'as vraiment la haine. C'est un truc de ouf. Alors, tiens, vous allez me dire, là il y a 2-0. Qui est le dernier champion?
Oui, il y a 2-0.
Il y a 2-0 en finale NBA.
Ah oui, pardon.
Qui est le dernier champion NBA qui a gagné 4-0? Pas qui a perdu 4-0.
Les Spurs.
Qui a gagné 4-0.
Les Spurs.
Non. Bah non.
Les Warriors.
Les Warriors depuis en 2018 contre les Cavs.
Ouais, Cavs.
Pourquoi t'es resté bloqué?
Parce que je suis resté bloqué.
T'avais la bonne intuition. Tiens, on va voir si vous connaissez bien vos finalistes NBA. Je vous diffuse une interview d'après-match. Vous me dites simplement qui est en train de parler.
PJ Washington hits an above the break three. That's almost 70% of the points there. So that, like, the game was going the way we wanted it to go.
Ce début incroyable, c'est qui?
We can control. And,
Joe Holiday?
I thought our guys took the points.
Joe Mazzulia.
Incroyable, mec.
Pidi Gonzalez.
Alors, j'ai essayé de comprendre ce qu'il dit. Franchement, c'est compliqué. Hein. Bon coach, excellent coach, très bon coach.
Deux ans de coaching, bon, pour l'instant, c'est correct. Il a fait quelques conneries l'année dernière.
Je pensais pas qu'il serait aussi bon. Vraiment, ce qu'il propose, c'est hyper intéressant. Vraiment. Bah, c'était l'assistant.
Dime Udoka,
ouais. il est monté en grade.
Il est meilleur,
et voilà.
En fait. Hein, il est meilleur.
Je sais pas, Dime Udoka est un bon coach. Le problème, c'est qu'il a la maladie de la cartouche, Dime.
Alors,
c'est à côté de sa place.
Ouais, après, il a Houston aussi. Hein. Pas
oui,
facile,
oui.
Non plus,
hein. Deux points pour Steve, un point pour Fred et un point pour Arnaud. On va faire un vrai ou faux sur Jrue Holiday. Ok, vrai ou faux sur Jrue Holiday. C'est Steve qui va démarrer. On va faire un petit tour de table tranquille. Jrue Holiday est fan de Jimi Hendrix. Ça tranche avec les habitudes de la NBA. Hein.
Alors, tu t'es.
Alors, raisonnement.
Alors, parce que t'as dit que tu voulais pas faire le truc sur les joueurs de l'Est Yougoslavie qui sont champions NBA parce que ça prenait trop de temps. Tu t'es quand même pas cassé la tête à envoyer un escret de Jimi Hendrix et inventer un truc comme ça. Donc, je veux dire, c'est vrai.
C'est vrai. Voilà, mais, merci. Alors, t'as souvent les bons raisonnements, mais ce serait mieux si vous aviez assez de culture NBA pour répondre aux questions sans avoir besoin d'un raisonnement. C'est vrai. Je roule l'idée. Ouais, mais c'est étonnant. Hein.
C'est un mec à part. Hein.
C'est un mec à part, exactement. Arnaud, je roule l'idée, est fan des Lakers. Il joue à Boston.
Mm-hmm. C'est faux.
C'est vrai. Et il l'a dit avant de signer à Boston. Mais c'est, il l'a dit. Hein.
C'est un gars, je te le dis depuis le début que c'est un bon gars.
C'est
pour
sa
l'idée.
Franchise.
Tu m'as donné un point, j'ai zéro point.
Hein. Ah oui, je t'ai donné un point, je te l'enlève. Et enfin, Fred, sa paire de baskets préférée, c'est les Stan Smith. C'est vrai ou c'est faux?
C'est faux.
C'est faux, vrai. C'est les Kobe 4S.
Évidemment.
Voilà. Tu vois comment elles sont pas mal. Hein.
Ouais, c'est pas mal.
Assez stylé. Donc Fred, c'est bon. Tu marques un deuxième point. Steve en a 3 et Arnaud est à 0. Alors là, attention, on a innové. Jaylen Brown, James Brown, les deux ou aucun des deux. Vous êtes prêts?
Ou Alphonse Brown?
Vous voulez... Ah, j'ai pas fait Alphonse Brown. Je suis né au Havre. Alors, est-ce que vous voulez répéter, on répète la question?
Non, Jalen, James ou...
James Brown, le chanteur. Hein.
Les deux ou aucun des deux?
Les deux ou aucun des deux. Et donc, réfléchissez bien, parce que ça peut être les deux ou aucun des deux. Hein. Stephen.
Je suis noir.
Je suis né dans l'état de Géorgie. Jalen Brown, James Brown, les deux ou aucun des deux?
Mec, là, ça va être une chance sur quatre. Celui-là.
Bien sûr.
Je vais dire les deux.
Alors, c'est Jalen Brown qui est né en Géorgie, tandis que James Brown est mort dans l'état de Géorgie. Arnaud Valadon, je suis surnommé Old Man. Jalen Brown, James Brown, les deux ou aucun des deux?
James Brown,
le vieux monsieur.
Eh ben non, c'était un piège, c'est Jalen Brown, c'est un de ses surnoms, Old Man. Freddy, il me regarde du coin de l'œil. Fred, j'ai été un très honnête joueur de baseball étant jeune. Jalen Brown, James Brown, les deux ou aucun des
deux. Les deux.
Les deux. Et il me dit ça avec une assurance. Raconte-moi l'histoire.
Alors, James Brown, quand il était jeune, il n'y avait pas beaucoup d'argent à la maison. Et il s'est dit, je vais peut-être essayer une carrière de sportif. Et effectivement, au début, ça fonctionnait à peu près bien. Il est tombé dans la musique parce qu'un gars l'a amené à une soirée. Et c'est comme ça que...
C'est pas ça la vraie histoire. C'est que James Brown a pratiqué deux sports à un très bon niveau. C'est la boxe, c'est le baseball. Et il s'est blessé à une jambe. Donc ça lui a...
Quelle jambe?
Ah là, je ne sais pas.
À sa batte de baseball, peut-être.
Quant à Jalen Brown, il a pratiqué de nombreux sports, dont le soccer. Donc Fred
Le soccer, c'est un grand fan de soccer, par contre.
Ouais, et il a pratiqué un bon niveau. Ouais. 3 points
fan
pour
d'Arsenal,
Fred.
Jalen Brown. Oui.
3 points pour Stephen, et t'as vu, je ne l'ai pas faite.
Je savais.
J'aurais pu. Non, je savais pas.
Qui est fan d'Arsenal.
Alors, attention, on revient du facile. Les Celtics et les Lakers sont
c'est
à égalité.
17-17.
Avec 17 titres, exactement.
Ce sera le 18e.
Ce qui veut dire que si Boston gagne, ils sont devant et puis ce sera la meilleure franchise, bien sûr.
C'est quoi la question?
Non, vous n'avez rien à dire, ça.
Non, la question était juste pour énerver Fred. La question est la suivante. Quelle est la troisième franchise la plus titrée?
Les Warriors.
Les Warriors avec 7 titres. C'est plus les Bulls. Avec leurs 6 titres, les Warriors sont passés devant. Les Lakers ont perdu 15 finales, c'est le record. Alors que Boston en a perdu moins, Fred.
7.
Alors, après les Lakers et les 15 finales perdues, quelle franchise a perdu le plus de finales? Il y a deux réponses possibles.
Les Spurs.
C'est pas les Spurs.
Boston.
Cleveland.
Et ben c'est pas Boston et c'est pas Cleveland.
Magic. Non.
Les Boston Celtics n'ont perdu que 5 finales. C'est incroyable, cette franchise. Elle est exceptionnelle.
Les Sixers.
Les Sixers, avec 6 finales perdues, tout comme les New York Knicks. Bravo, Stephen. Tu reprends l'avantage. 5 points. Ah non, tu as doublé ton avantage. Tu as fait le break. 3 points pour Fred et Arnaud et Fanny pour le moment. Qui parle ?
Non, je ne pense pas que...
Zachary Rizaché.
Je pense pas.
Zachary Rizaché, bravo. Écoutez bien.
Je suis prêt à relever ce nouveau défi. Et si je l'avais pas été, bah, j'aurais fait un nom de plus ici.
Voilà. Alors, quelle que soit sa franchise, il sera pas déçu. Il prépare cette draft NBA assez sereinement.
Par demain.
Aux États-Unis.
Par demain.
États-Unis,
ouais. Il va être drafté par qui ?
Par l'équipe qui aura une des trois équipes qui aura 1, 2, 3. Atlanta.
Très belle playoff hein, pour Zachary Rizaché.
Washington.
Atlanta, Washington.
Pour l'instant, il est annoncé à Washington.
Washington avec Bilalai.
Ce serait pas terrible, non ? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, j'aime pas trop.
Washington ?
Bah, dans la configuration, là, ouais. Mais ouais,
il y a son poste, il y a FDIA déjà qui est là.
On est presque au bout, donc Arnaud va falloir se réveiller. Je vous donne une finale, écoutez bien. Hein. Je vous donne une finale.
Oui, il faut faire quoi, le roster ?
Je vous donne l'année et l'affiche. Non, vous me donnez le MVP des finales. Alors, Arnaud, tu démarres. 2018 Golden State Cleveland.
KD ?
Bravo, il n'est pas tombé dans le piège. C'est Kevin Durant.
Ouais, c'est quoi le piège ? Curry ?
Curry, bah oui. Ah, t'as de la chance, toi.
Ah oui, c'est pas sûr.
2004 Lakers Pistons.
Est-ce que t'as de la chance ? Chauncey Billups.
Bravo, excellent. T'avais pas de chance, c'était pas si
non. Au début, je me disais chat, mais non, c'est pas.
Ensuite, Steve, 1988 Lakers Pistons. Toujours Lakers Pistons, autre époque. 88.
Donc c'est les Lakers qui gagnent, parce que 89-90, c'est les Pistons. Donc 88, les Lakers qui gagnent, c'est Magic Johnson.
T'as dit Worthy, non ?
Moi, j'aurais dit James Worthy.
James Worthy, bravo. Arnaud, 2000, Lakers Pacers.
Rick Smith.
C'est facile ça par contre.
Shaq.
Bah oui. Shaq, et oui, c'est facile, mais dis pas que c'est facile puisque c'était des
mais
pièges
il
avant.
Mais bien sûr qu'il le savait.
Le piège c'est là, c'est le
Kobe,
piège c'est le vice puisqu'il y avait des pièges avant, il aurait pu chercher un piège. À toi Fred, 1977 Portland, Philadelphie. Réfléchis.
Dr. G.
Non, c'est un mec qui est décédé il n'y a pas longtemps.
Exactement. Hein. Bill Walton, on l'a dit il y a 15 jours je crois.
Ah mais bon, en plus oui.
Et 2014 Spurs Miami. Stephen Brun.
Là, je l'ai.
Kawhi Leonard.
Exactement. Voilà. Bah, t'es tombé sur Bill Walton,
ouais,
mais
bah
t'aurais
pu le
savoir.
Oui.
Donc on en est
à 7 Bill
points pour Steve, 4 points pour Fred et 2 points pour Arnaud. Alors il y a 10 réponses à me donner là sur la question multipoint. On va faire un tour de table. Dès que quelqu'un chute,
finito.
Les autres marquent un point à chaque bonne réponse. Donc il va falloir être bon, Arnaud. Hein.
C'est un tour de table, très bien.
C'est un tour de table. Les joueurs, il y a 10 bonnes réponses, hein, 10 réponses possibles. Les joueurs qui ont été MVP et MVP des finales la même année.
L'UBMT.
C'est parti.
Pop, pop.
Arnaud Valadon.
Pop, pop, pop.
LeBron.
Deux fois en 2012 et en 2013. Fred Weiss.
Abdul-Jabbar.
En 1971 avec les Bucks. Il est soulagé, Fred. Il ne voulait pas être Fanny.
Je vais partir sur un truc simple. Je vais dire Michael Jordan.
Michael Jordan, 4 fois. 91, 92, 96 et 98. Arnaud Valadon, ça va commencer à se compliquer.
Il a mis quelques tirs décisifs face à Fred Weiss sur une partie de Touquet juste avant cette émission. Larry Bird.
Larry Bird, 2 fois. 84, 86.
T'as fait taper encore ?
Fred.
Oui.
T'es français à Touquet encore ?
Il a perdu.
J'ai perdu d'un point.
Ah. Après un carton. Hein.
En plus, en prenant contre les Celtics, c'est dur. T'avais pris les Lakers ?
Non, j'avais pris New York.
Bon, ouais, all time avec Patrick Ewing.
Allez, vas-y.
C'était quoi la question ?
Alors là,
même année, MVP et MVP des finales.
Il en reste 6.
Hakeem Olajuwon ?
Excellent.
Ah, ma carotte, j'ai la haine.
94 avec les Rockets. Steve.
MVP et MVP des
finales. Exactement, c'est la question.
Ouais, bravo. Je vais tenter un Shaquille O'Neal.
Un Shaquille O'Neal, c'est bon en 2000 avec les Lakers. Arnaud, à toi. Vous êtes bon, hein, bravo. Hein.
C'est comment... Il reste 4, là.
Il en reste 4.
Tim Duncan.
C'est bon en 2003 avec les Spurs. Bravo, Fred.
Il y en a un truc, mais je suis sûr que non, en fait.
Ça va être bon, ça va être ça.
Non, je pense pas. Mais je sais pas du tout.
J'en suis sûr.
Moi, j'allais dire Steph Curry, mais...
Non, c'est pas bon.
Tu vois, je savais que c'était pas bon.
Allez, vous marquez un point à chaque bonne réponse. Steve.
J'ai gagné, quoi qu'il arrive.
T'as gagné. Sauf s'il me sort les trois derniers, je lui offre un bonus.
Je vais tenter Magic Johnson.
Et voilà, c'était celui-là qui était pour toi, Fred. C'est bon. Arnaud.
Yannis Antetokounmpo.
C'est pas bon.
Ah
et Steve
Je pense qu'il y a un Yeuve.
Il y a deux Yeuves, là.
Je vais tenter Moses Malone.
Excellent, excellent. 1983 avec les Sixers, tu auras vraiment mérité ce quiz.
Et le dernier, c'est encore plus Yeuve.
Encore plus Yeuve.
Pete Maravich.
1970, New York Knicks.
Willis Reed.
Bravo Fred, ça suffira pas. Victoire de Stephen Brun. Bravo. À la semaine prochaine.
RMC Basket Time.